On a trouvé une grenouille.
On a trouvé une grenouille.
D'accord.
Petite grenouille.
Ah non.
Elle est vraiment petite.
C'est une grenouille,
c'est
bon.
Wow. Là,
elle est trop cute.
Elle est à moi maintenant.
Non, elle est gigantesque.
Je peux pas la garder.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une sortie scolaire organisée par le lycée Vincent Dindy en partenariat avec le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Cette sortie s'est faite dans une tourbière, un lieu peu connu et plein de mystères qui réserve parfois des surprises.
Donc voilà la sphène, quoi, ça c'est une tige. Et regardez bien. Voilà. Elle est gorgée d'eau, donc elle joue bien un rôle d'éponge. Donc imaginez, là, sur la petite touffe, j'ai quand même sorti un fond de verre, quoi. Bah imaginez tout ça, là, donc ça fait vraiment office. Et vous en avez aussi sous vos pieds?
La tourbière qui a accueilli 34 élèves de seconde et deux professeurs accompagnateurs est celle du bois de Cuse, située sur la commune de La Chambre-Raphaël. On y accède depuis Privas en 1h15 environ par les départementales 104 et 354.
Si on joue, combien ?
Madame Soufflet, professeure de sciences de la vie et de la terre au lycée Vincent Dindy de Privas, mais également organisatrice de ce projet de tourbière, va répondre à nos questions.
Koh-Lanta, bienvenue à Koh-Lanta, baissez-vous.
Faut le toucher, touche-le.
En fait, c'est le parc des Monts d'Ardèche qui a lancé un appel à projet qui s'appelle « Coup de pouce, je découvre mon parc ». Et on a répondu à cet appel à projet avec Madame Guénaud, qui est une autre professeure du lycée Vincent Dindy, notre professeure de SVT. Et on a été sélectionnés par l'équipe du parc.
En quoi consiste votre projet ?
En fait, on voulait emmener des élèves de seconde sur un site, un environnement qu'ils ne connaissent pas beaucoup. La tourbière, et ma collègue elle emmène d'autres élèves sur un milieu qu'on appelle la châtaigneraie, qui est un peu plus connu quand même en Ardèche. Et le but c'était de leur faire découvrir le milieu, mais aussi de leur faire rencontrer des professionnels, découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément et les sensibiliser aussi à la protection de l'environnement et de ces milieux rares.
Avez-vous des partenariats? Si oui, avec quelle organisation?
C'est le parc qui a financé les déplacements en bus pour les élèves de la Châtaigneraie et de la Tourbière. Et le lycée s'est engagé à hauteur de 10% pour financer par exemple l'achat du petit matériel qu'on a emmené aujourd'hui sur le site. La Tourbière, c'est un milieu qui est privé en fait, donc les propriétaires nous ont permis aussi d'accéder au site. Et puis les partenariats du parc nous ont permis également de faire venir Madame Borel de la radio de Info RC et Monsieur Cocatre du parc aussi, le chargé de mission au parc.
Combien de temps l'élaboration de ce projet a-t-elle nécessité ?
Alors c'est un travail de longue haleine en fait, parce que le dépôt des dossiers devait être fait avant juin 2016, donc ça fait quasiment un an qu'on travaille dessus. Donc pour monter le projet, pour rencontrer les professionnels qui sont intervenus en classe ou ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Et beaucoup de travail avec les élèves aussi, semaine après semaine. Et on va travailler encore après cette sortie, notamment au montage audio, à la rédaction d'un journal qui va paraître dans le journal du lycée et peut-être dans un journal local. Donc il reste encore un petit peu de travail.
Qu'avez-vous pensé de cette journée? Êtes-vous satisfaite?
Alors, je suis très satisfaite de la journée parce qu'il faisait beau, les élèves étaient intéressés, ils ont posé des questions. On a eu des petites rencontres sympathiques avec des grenouilles, des lézards. On a appris beaucoup de choses et c'était vraiment très bien. Et je suis prête à revenir avec plaisir.
On remercie Madame Soufflet d'avoir décrit les objectifs de cette sortie. Et nous allons enchaîner tout de suite avec une interview de Monsieur Cocatre au sujet de son travail, du PNR en général et des tourbières en particulier.
Donc je suis chargé de mission Natura 2000 et espaces naturels sensibles. En fait, je m'occupe de la gestion d'un site en particulier qui s'appelle le site du Gerbier Mézin, du nom des montagnes du secteur ici. Et mon rôle, c'est de préserver, restaurer les milieux naturels, la faune et la flore qui est présente sur ces sites.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller vers ce métier ?
Depuis assez jeune, je m'intéresse beaucoup à la nature, je faisais beaucoup de randonnées, je suis pêcheur et paradoxalement aussi chasseur. Et donc j'ai fait mes études dans l'environnement pour travailler dans la nature et j'ai un master en biologie écologie. Mais je suis d'abord passé par un BTS pour avoir un peu l'aspect technique du métier, c'est-à-dire apprendre à reconnaître les plantes, apprendre à reconnaître les oiseaux. Voilà, donc ça, c'est grâce au BTS que j'ai pu acquérir tout ça. Et l'université m'a apporté, par contre, toute la connaissance théorique sur comment fonctionne un milieu, l'écologie, tout ça.
Vous avez mis combien de temps pour apprendre tout ça ?
Bah, pour tout ce qui est connaissance faune-flore, en fait, c'est du travail quotidien. C'est en faisant des sorties sur le terrain avec des livres. C'est pas forcément l'école qui m'a appris tout ça, quoi. C'est... Ou en étant avec d'autres personnes qui connaissent déjà des choses et qui me montrent, qui m'expliquent, voilà. Cette roche, vous entendez ? C'est une lauze, donc oui, voilà, lauze, ça veut dire que c'est pierre plate. Ici, c'est de la phonolite. Phono, ça veut dire son. Lite, lithos, ça veut dire roche. La pierre qui sonne, la pierre qui chante.
Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de votre salaire ? Et être guide, est-il payé en extra ou cela fait partie de votre travail ?
Alors non, la sortie d'aujourd'hui, ça fait partie de mes missions, de mon travail, bien sûr. Hein, justement, faire connaître, sensibiliser le public à la nature pour pouvoir le préserver, ça fait partie de nos missions. Et le salaire moyen, on va dire, pour un chargé de mission, hein, donc c'est un niveau bac plus 5, hein, voilà, on sort de l'université, c'est autour de 2000 euros net.
Quelle est la superficie du parc naturel régional des Monts d'Ardèche ?
Ça, c'est une question piège, je ne connais jamais. Non, ce que je peux dire, c'est que ça regroupe plus de 150 communes, donc c'est quand même un tiers du département. C'est à cheval sur le département de la Haute-Loire et de l'Ardèche aussi, donc c'est quand même un grand territoire en fait.
Et la superficie des tourbières ?
Alors ici, on est sur une tourbière... pour une tourbière, on est sur une surface assez importante quand même, elle est juste là derrière. On va s'approcher, on va la découvrir. Puisqu'une tourbière, comme je l'expliquais, il faut des conditions très particulières. Donc bien souvent, c'est assez petit. C'est de l'ordre de quelques hectares, en fait. Quoi.
Y a-t-il différents types de tourbières ? Si oui, lesquels ?
Alors oui, il y a différents types de tourbières qui sont liés justement à l'origine de la tourbière. Est-ce que c'est d'origine liée à l'origine du sol ? Est-ce que c'est lié à l'origine du climat ? Et donc, c'est des noms un peu scientifiques. Hein. Il y a les tourbières ombrogènes, il y a les tourbières topo-ombrogènes. Voilà, donc c'est un peu du jargon d'écologue, quoi.
Quel rôle les tourbières jouent-elles dans l'environnement ?
Elles ont un rôle très important, puisque c'est une espèce d'éponge géante, hein, pour simplifier les choses. Donc quand il pleut, elle va emmagasiner l'eau et va éviter que l'eau parte dans les cours d'eau et créer des phénomènes de crue. Elle va du coup garder cette eau, la stocker et la restituer l'été quand il fait très chaud, qu'il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau. Donc c'est un vrai rôle d'éponge. Et elles abritent également une biodiversité, donc une faune et une flore très, très rares et assez exceptionnelles quand même.
Y a-t-il des règles, des lois à respecter dans ce milieu naturel ? Si oui, pouvez-vous donner quelques exemples ?
Alors oui, donc là justement, j'attire l'attention de tout le monde. Donc quand on sera dans la tourbière, on va essayer de marcher tous au même endroit, on ne va pas s'étaler partout, puisque les tourbières, comme je l'avais expliqué, c'est formé de ce qu'on appelle la sphaigne, qui est une espèce de mousse hein, qui fait office d'éponge, et le piétinement peut, quand on est très nombreux, peut impacter la tourbière et justement casser cette mousse qui jouera plus son rôle d'éponge. Voilà. Et ensuite, comme c'est une zone humide, il y en a qui se rappellent un peu les conditions pour former une tourbière. Qu'est-ce qu'il faut ? La première condition, la principale condition ?
De l'eau.
De l'eau, ouais, il faut beaucoup d'eau. Et donc, on verra là des mauvais exemples. C'est-à-dire que pour pouvoir exploiter la tourbière, on a creusé des drains, donc des fossés pour évacuer l'eau le plus vite possible. Et ça, c'est néfaste à la tourbière. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut surtout pas faire, puisque l'eau va partir plus vite. Donc la tourbière va s'assécher et du coup elle jouera plus son rôle et ça sera plus une tourbière au bout du compte puisqu'il n'y aura plus d'eau.
Quelles sont les menaces qui pèsent sur les tourbières ?
Alors aujourd'hui les menaces donc c'est les drains, mais maintenant heureusement la loi interdit tout drainage, toute intervention en zone humide en tourbière. Donc aujourd'hui on ne peut plus faire ce qu'on veut, mais il y a 20 ou 30 ans, les forestiers, les agriculteurs, eux ce qu'ils voulaient c'est planter de la forêt. Donc il fallait drainer le sol, assécher le sol pour que l'arbre puisse pousser ou pour pouvoir faire de la prairie de fauche, par exemple. Et donc ça, c'est des menaces anciennes qui, aujourd'hui, ont encore des impacts sur ces tourbières, ces zones humides. Et justement, mon rôle, c'est de réparer ça. Et on ira voir concrètement des exemples sur le terrain, quoi, en fait. Donc en fait, la tourbière, elle se forme, on a dit, parce que quand il y a beaucoup d'eau, déjà. Et en fait, le fait qu'il y ait beaucoup d'eau, les bactéries qui sont présentes dans le sol ne vont pas dégrader la matière organique issue des feuilles. Et donc la matière organique ici, elle va se former, elle va s'accumuler comme ça. Elle ne va pas se décomposer, elle va créer des couches, la tourbe va s'accumuler. Parce qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de bactéries pour décomposer. En fait, sous nous, là, il y a des chances qu'il y ait une nappe d'eau. Et on appelle ça les zones de tremblant.
Oh. Voilà. En fait, on est sur un sol un peu flottant et il y a de l'eau en dessous, donc c'est pas très stable.
Qu'est-ce qui fait qu'en fait, que la matière organique ne va pas se décomposer? On a dit, il y a beaucoup d'eau, donc les bactéries... voilà. Le froid, très bien. Le froid, si vous mettez des aliments au frigo, c'est pour les préserver plus longtemps parce que les bactéries sont inactives. Donc, elle ne décompose pas la matière. Une autre particularité, on a pris justement un appareil pour mesurer quelque chose, pour le pH. L'acidité, ouais.
Alors, Pierrick, quel est ton instrument de mesure ?
C'est un pH-mètre.
Et tu peux nous dire à quoi consiste cet appareil ?
Ben, c'est pour mesurer le degré d'acidité des sols.
Et à quoi ressemble-t-il ?
Ben, c'est un boîtier qui avec deux lames qu'on enfonce dans le sol pour prélever un petit peu.
Et tu as relevé quoi? Enfin, quel est le résultat?
Là, le sol, il est neutre. Et il est à 7.
Peux-tu nous décrire ce que tu es en train de faire?
C'est pour voir la quantité d'eau qu'il y a dans le sol. Pour mesurer la quantité.
Ta conclusion, genre...
Si, non, mais là, il y a 4,5 sur 10. Bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même la moitié de l'eau, voilà.
Mathieu, peux-tu nous dire à quoi ressemble ton instrument?
C'est un thermomètre. Comme tout le thermomètre, c'est une tige avec un liquide rouge à l'intérieur et le liquide monte en fonction de la température, descend.
Quel est le but de cette expérience ?
L'expérience est mesurer la température de l'air et du sol de la tourbière.
Comment fais-tu pour mesurer la température du sol ?
On plante le thermomètre à l'intérieur du sol et du coup le thermomètre il va prendre la température du sol et plus de l'air en fait.
Et tu as trouvé quoi comme résultat ?
J'ai trouvé la température de l'air 14 degrés et la température du sol 7 degrés. Du coup, ça veut dire que la surface de la tourbière, quand même, ça retient bien la chaleur.
Bonjour Anthony, quel instrument utilises-tu ?
Alors, j'utilise un luxomètre, c'est un appareil qui permet de capter la lumière du sol. C'est la nuitée, c'est le luxe, et ici on est à peu près vers les 85 000 lux.
À quoi ressemble ton appareil ?
Alors c'est un appareil et un capteur, faut le poser au sol à l'endroit où il y a de la lumière, faut pas se mettre devant sinon on capte pas la bonne lumière. Et on trouve une unité, il faut la multiplier par 100 et ça nous donne l'unité en luxe.
Et qu'en penses-tu ?
Je pense que c'est important pour savoir le développement des plantes ou le milieu où les insectes y vivent, pour voir à quelle humidité ils vivent.
Intéressons-nous maintenant à la faune et à la flore qui habitent les tourbières. C'est une nouvelle fois Monsieur Cocâtre qui va répondre à nos interrogations.
Tout d'abord, quel signe nous indique que le milieu dans lequel on est une tourbière ?
Alors là, à première vue, on ne peut pas le voir, il faudrait s'approcher. on verra tout à l'heure. En fait, il faut aller regarder la végétation. Et l'indicateur principal, c'est cette fameuse mousse qui fait office d'éponge, ce qu'on appelle la sphaigne. Et je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble, en fait.
De quand date la formation de la tourbière du bois de Cuse ?
Alors, c'est difficile à dire. Une tourbière, en général, enfin celle-ci, on n'a jamais mesuré son âge. Ce qu'on peut faire, c'est prendre des photos aériennes, mais vu que c'est une formation qui peut mettre plusieurs milliers d'années à se former, bien souvent, elles se sont créées au retrait des glaces pendant l'âge glaciaire, donc il y a 10 000, 20 000, 25 000 ans. Et pour pouvoir connaître son âge, il faudrait mesurer l'épaisseur de tourbe, puisque la tourbe, c'est la végétation ne se décompose pas. Et donc elle va s'accumuler, et donc en fonction de la hauteur de tourbe, on peut retracer l'âge de la tourbière, savoir l'âge de la tourbière.
Trouve-t-on la même végétation, quelle que soit la tourbière ?
Oui, puisque les conditions sont les mêmes. Si on est sur une tourbière, on aura quasiment les mêmes plantes. Ouais.
Et pouvez-vous nous donner des exemples de plantes spécifiques ?
On a par exemple la Drosera, qui est vraiment la plante typique des tourbières, qui est une plante carnivore en fait. Et si elle est carnivore, c'est parce que vu que le sol est très pauvre en éléments minéraux, et ben pour pouvoir se nourrir, elle s'est adaptée et elle a développé l'aspect carnivore pour se nourrir à partir d'insectes.
Et pour les animaux, qu'en est-il ?
Alors les animaux, justement les animaux des tourbières, il n'existe pas forcément d'animaux spécifiques qui vivent uniquement dans les tourbières, mais il y a des animaux qui aiment bien vivre dedans. On peut parler de la vipère péliade, une espèce qui était très présente à l'époque glaciaire, quand ici il y avait des rennes, il y avait les hommes préhistoriques de la grotte Chauvet. Et elle s'est réfugiée sur les hauteurs, dans les zones très humides, très froides, et là où on trouve des tourbières bien souvent, et donc on peut trouver la vipère péliade. On a aussi un petit oiseau qu'on appelle le pipite farlouze, qui lui niche au sol, et il aime bien nicher dans les tourbières parce qu'il est tranquille. On a aussi la loutre, qui vient souvent se nourrir dans les tourbières, parce que dans les tourbières, on a des zones d'eau libre, hein, donc des espèces de mares, et il y a les grenouilles rousses qui viennent pondre dans ces mares, dans ces trous d'eau, et la loutre vient se nourrir, parce que quand c'est la saison de reproduction, là on est en plein dedans, on risque d'en voir, et ben quand toutes les grenouilles sont là en train de se reproduire, ben, la loutre elle vient casser la croûte, quoi. Qu'est-ce que c'est à votre avis ? Non, là, ce qu'il y a sur la pierre, ça. Des excréments. Alors, d'habitude, on me dit c'est caca. Non, c'est bien, excréments, c'est scientifique, c'est pro, c'est très pro. De qui, à votre avis ?
Des aigles.
Des araignées.
Des araignées qui font des. Est-ce que ceux qui sont un peu proches, là, devant, peuvent s'approcher ? Parce qu'en regardant ce qu'on retrouve dedans.
C'est des os.
C'est des petits bouts d'os, on est d'accord.
Ah, donc c'est un carnivore.
Bon, déjà, je vous dire, les petits os, ils appartiennent à des grenouilles.
Oui, une loutre.
Une loutre.
Ouais.
Donc c'est ce qu'on appelle une épreinte. C'est le nom du caca de la loutre, l'épreinte. Donc c'est très bien, ouais. Une loutre. Donc voilà, ici, on est sur le territoire d'une loutre, qui, comme vous le dites, est venue ici pour dire, s'il y a une autre loutre qui vient dans le coin, pour dire, attention, t'es chez moi, c'est mon territoire, c'est mes grenouilles. Un peu comme Marwan.
C'est ma grenouille. Allez,
c'est ma grenouille, tu touches pas ma grenouille.
Est-ce qu'il y a des espèces menacées ? Si oui, lesquelles ? Et par quoi le sont-elles ?
Alors, toutes les espèces que je viens de citer sont menacées. Et tout ça, c'est lié au fait que les tourbières sont des milieux assez rares, en fait. Il y a très peu d'endroits en France où on a des tourbières. Et en plus de ça, on les a détruites en les drainant pour pouvoir planter, pour pouvoir pâturer. Et donc, du coup, elles disparaissent. Donc, si les milieux disparaissent, les espèces qui vont avec disparaissent aussi. Donc, toutes ces espèces sont assez rares quand même.
Y a-t-il des espèces qui ont déjà disparu des tourbières ?
Oui, certainement. Après, ça peut être aussi naturel. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup d'espèces, des reliques glaciaires qui étaient présentes et puis qui, maintenant, avec le réchauffement climatique, qui sont moins adaptées et qui disparaissent comme ça.
Y en a-t-il qui, au contraire, apparaissent dans ce milieu ?
Là, ici, justement, on a un problème. Il y a l'écrevisse américaine. Donc, c'est une écrevisse, comme vous avez compris, qui vient d'Amérique, de Californie, l'écrevisse de Californie, exactement. qui a été réintroduit. Donc il y a quelqu'un qui en a lâché ici et du coup elle s'adapte très bien. Et ça pose beaucoup de problèmes parce qu'elle est assez agressive, elle va manger tout ce qu'elle trouve. Donc au niveau des libellules, ben, il y a moins de libellules parce que les libellules, comme vous savez, elles passent par un stade larvaire dans l'eau. Et les écrevisses américaines de Californie, elles vont manger toutes les larves de libellules. Et du coup, on a moins, les libellules sont en train de disparaître, certaines espèces. Donc là, par exemple, oui, on a l'écrevisse, mais elle n'est pas apparue naturellement, quoi, par exemple, si c'était le sens de la question. Mais ça ne menace pas la tourbière en elle-même, ça menace la faune en elle-même, quoi.
Merci à Monsieur Cocatre d'avoir bien voulu nous répondre et nous guider aujourd'hui. Passons pour terminer aux avis des principaux concernés par la sortie. Les élèves et une étudiante en BTS Gestion et Protection de la Nature.
Connaissez-vous l'existence des tourbières avant cette sortie? Si oui, en avez-vous déjà vu avant?
Non, je n'avais jamais entendu parler des tourbières avant cette sortie.
Oui, on connaissait des essences grâce au cours qu'on a eu dessus.
Voilà.
Après, si j'en ai déjà vu, moi, non, personnellement. Bah, moi, je suis allée en sortie, mais pas dans le cadre de ma formation actuelle, mais oui, sinon on avait vu avant.
Alors non, je ne connaissais aucune tourbière avant de venir et je n'en connaissais pas.
Alors oui, je connaissais l'existence des tourbières avant, mais je n'avais jamais visité.
Qu'avez-vous appris sur ce milieu?
Sa composition, le pH, la luminosité, etc. Les êtres vivants qui y habitaient et les végétaux aussi.
Bah, que c'est un milieu très humide. Et qu'il faut faire attention à la nature, enfin aux espèces qui s'y trouvent et tout.
Le milieu pouvait empêcher une pousse d'arbres, vu qu'il y avait, il était trop gorgé d'eau.
Les conditions pour que ce soit une tourbière, donc beaucoup d'eau, il faut que ce soit froid, comme ça les bactéries elles sont inactives, elles ne peuvent pas consommer la matière organique. Et le troisième élément, c'était le pH. Dans l'acidité.
Alors j'ai appris que de nombreuses espèces vivaient dans ce milieu et que la biodiversité était très variée.
En fait, avant pour moi, une tourbière, c'était un champ avec que de la terre. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de une biodiversité très, très variée.
De tout ce que vous avez vu aujourd'hui, quelle est l'image qui vous reste en tête?
C'est un milieu très spécial qu'on n'a pas l'habitude de voir et voilà.
J'en ai pas spécialement, à part on dirait, un matelas rempli d'eau, je sais pas comment dire.
Que c'est des milieux qui sont en voie de disparition sur notre territoire et au-delà, si on regarde à l'échelle européenne et mondiale. Et ce qui me reste en tête, c'est grâce à ce que notre maître de stage fait avec vous, il vous sensibilise et peut-être que ça va aider... à préserver ces milieux.
C'est un champ avec quand même une biodiversité avec plein d'animaux, comme on a vu, des grenouilles, etc., des araignées, des insectes, mais aussi avec beaucoup de plantes, plus que ce que je pensais avant.
Cette sortie vous a-t-elle plu?
Alors j'ai bien aimé quand on a vu les toutes petites grenouilles et j'en ai même pris une dans ma main.
Oui.
Pourquoi ? Parce que c'est intéressant de voir des nouveaux des milieux qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est intéressant aussi de découvrir des nouvelles choses.
Oui, oui beaucoup.
Pourquoi ?
Parce qu'on aime bien le terrain, voilà, on aime la nature.
Alors oui, la sortie elle m'a beaucoup plu parce qu'on a appris plein de choses.
Je trouve que c'est intéressant de voir un milieu qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien.
C'est sympa, ça fait un moment entre tout le monde, entre la classe et tout, du coup c'est bien. Ouais.
Et reviendrez-vous ici?
Oui, pourquoi pas?
Si on me propose, peut-être avec des copains, mais pas tout seul quoi.
Dans cette tourbière-là, peut-être pas, mais dans une autre, pourquoi pas.
Conseillerez-vous cette sortie à vos proches?
À ceux qui aiment beaucoup la nature, ouais.
Donc vous avez là l'arbre là-bas avec le tronc blanc, le bouleau. Et ça aussi, c'est un peu caractéristique quand c'est humide, tout comme le saule, qui eux, vous avez vu, ils poussent les pieds dans l'eau, quoi, ça les dérange pas.
espérons que notre reportage sur les tourbières vous aura plu et aura un peu levé le mystère qui entoure ce milieu méconnu du grand public. Si des questions vous viennent en tête, vous pouvez consulter le site internet du parc, parc-mont-ardèche.fr, vous rendre au domaine de Rochemur à Jaugeac ou encore téléphoner au 04 75 36 38 60. Merci de nous avoir écoutés sur Info RC sur le 88.6 et 97.2.